9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Pour lutter contre l'épidémie de Covid, on peut soit la contenir, enfin contenir le virus, soit l'éliminer. La France, à la différence d'autres pays, a choisi de vivre avec. Plus de 600 scientifiques se mobilisent pour convaincre le gouvernement de changer de stratégie. Ils prônent le zéro Covid. Le généticien Axel Kahn en fait partie. Il est avec nous ce matin et il est très remonté. Et les Jeux Olympiques de Tokyo auront-ils lieu? Le Japon, qui pratique la stratégie du zéro Covid, va-t-il ouvrir ses portes cet été à des milliers d'athlètes, de journalistes et de touristes venus de pays où l'on vit avec le Covid? Jean-Philippe Leclerc, le directeur adjoint du quotidien L'Équipe, va nous dire ce qui risque de se passer. Et l'on terminera l'émission avec Lorraine Kaltenbach, qui consacre un livre à Marie-Sophie de Wittelsbach, la sœur de Sissi, complètement oubliée aujourd'hui, alors qu'à 19 ans, elle était une star dans toute l'Europe. Vous allez voir, elle est beaucoup plus passionnante que Sissi. Bonjour Axel Kahn.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes médecin, vous êtes généticien, vous êtes président de la Ligue nationale contre le cancer. Le 10 mars prochain, vous publierez un livre chez Stock et le bien dans tout ça. Mais c'est pour une tribune que vous avez signée avec 650 autres scientifiques en faveur d'une autre stratégie sanitaire que je vous ai demandé de venir ce matin. Vous y attaquez sévèrement le gouvernement, du moins sa stratégie qui consiste à vivre avec le virus. Et vous voulez la remplacer, cette stratégie, par la stratégie zéro Covid. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots la différence entre les deux?
Tout d'abord, Frédéric Taddeï, une remarque quand même, une objection. C'est qu'on n'attaque pas le gouvernement, puisque au mois d'octobre-novembre dernier, la stratégie que nous préconisons était celle qui était annoncée par le président de la République. Rappelez-vous, qu'a dit le président de la République fin octobre pour annoncer le confinement de novembre? Il a dit, voilà, on va se confiner et lorsque il y aura moins de 5000 personnes contaminées par jour, donc lorsque le flux viral sera très diminué, alors on pourra déconfiner avec des précautions et grâce au trio, à la triade magique, le tester, tracer, isoler, protéger, eh bien, on tiendra l'ennemi à distance. Bon, ce n'est pas ce qui a été fait parce que malheureusement, au 8 décembre, il fallait bien déconfiner pour que les activités de Noël puissent se dérouler et il y avait encore 10 000 contaminations par jour. Et donc, on s'attendait très bien à ce que cela remonte. Et moi, je m'attendais à ce que ma foi, après les fêtes de Noël, eh bien, le gouvernement et le président de la République reprennent le chantier là où ils l'avaient laissé. C'est-à-dire qu'on achève le boulot. Il ne fallait plus grand-chose. Ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi une autre stratégie. Et donc, la position que je défends est la stratégie du président de la République en octobre, novembre.
Oui, mais alors la stratégie zéro Covid, qu'est-ce que c'est? Puisque certains nombres de pays seraient en train de l'appliquer avec succès. On dit que l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas se dirigent vers cette stratégie et qu'elle est incompatible avec la nôtre et que donc il va falloir fermer les frontières.
Non, disons que il y a deux grands groupes de pays depuis le début de la pandémie. À commencer par la Chine, où la pandémie a d'abord débuté. Tous les pays de l'Asie, en réalité, pas simplement les dictatures, mais des pays comme la Thaïlande, des pays comme la Corée du Sud, des pays comme le Japon, des pays comme Taïwan, et ensuite des grands pays du Pacifique tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont essayé de se fixer comme objectif zéro Covid. On ne vit pas avec le virus. On le boute dehors et après, on le tient en respect à l'extérieur. Au départ, les contraintes ont été dures. Mais ensuite, ces pays ont vraiment revécu. Aujourd'hui, ces pays sont des pays dont l'économie est totalement repartie et même elle redevient dominatrice pour ce qui est de la Chine. On va à l'école, on va à l'université, on va au spectacle, on va au restaurant. Il n'y a pas de commune mesure. Nous, la stratégie que l'on choisit, qui soi-disant est moins dur. C'est quoi cette stratégie? C'est dodo, vélo, boulot. Et puis on recommence, vélo, dodo, etc. C'est-à-dire, honnêtement, aujourd'hui la perspective, c'est ça. Et ce que je dis, c'est pas possible. Il faut donner des perspectives. Quelle est la sortie? Alors vous me direz, c'est la vaccination. C'est bien. Mais seul, ça va se faire attendre un peu. Puis il y a des dangers. Car si pendant qu'on vaccine, on laisse un très haut taux de circulation virale, on va faciliter la multiplication des virus résistants aux vaccins contre les souches antérieures et on n'en aurait pas fini. Et par conséquent, si on regarde les pays qui ont voulu vivre avec le virus dans un mauvais état, tous, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, les pays européens, ceux qui ont essayé d'éradiquer le virus, ça a été dur, mais ils vont beaucoup mieux, considérablement mieux, infiniment mieux. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Et d'autant moins, je le dis d'autant plus, en réalité, que c'était la stratégie qui était proposée par mon président de la République.
Mais souvenez-vous, on s'attendait à un nouvel engorgement des hôpitaux du fait du variant britannique. Cet engorgement n'a pas eu lieu et tant qu'il n'y a pas de pic, on se dit que ça va et qu'Emmanuel Macron a bien fait de ne pas reconfiner et qu'il est en train de gagner son pari.
C'est ce que vous vous dites, Frédéric Tanet?
C'est ce que je me disais jusqu'à ce que je lise votre tribune.
Cette situation qui ne nécessite pas un effort particulier. Il faut tout de même la définir. On est dans la deuxième vague, il n'y a pas de troisième vague. Hein. On est dans la deuxième vague, dans une queue, un haut plateau de deuxième vague. La première vague a coûté 30 000 morts. La deuxième vague, dans laquelle on est, a coûté déjà 53 000 morts. Il y a 12 500 personnes qui meurent chaque mois. 500 personnes qui meurent, si vous faites hôpital plus EHPAD, établissements médico-sociaux et villes, qui meurent chaque jour. On a des restrictions tout à fait considérables et on est donc dans ce que j'appelais tout à l'heure le dodo, vélo, boulot, etc. Si c'est ça que vous appelez une situation qui est suffisamment satisfaisante pour ne pas nécessiter une nouvelle stratégie, je vous en laisse la responsabilité, ma foi.
La nouvelle stratégie, ce serait forcément de reconfiner strictement comme on pensait que ça allait être fait, d'ailleurs.
Enfin, peu de temps. Je pense que la bonne stratégie. Aujourd'hui, on n'est pas capable, personne, aucun pays, jamais, n'est capable de faire du tester, tracé, isolé avec plus de 20 000 contaminations par jour. C'est impossible, impossible. À moins de 5 000, il faut descendre vraiment à moins de 5 000. À moins de 5 000, à un taux d'incidence inférieur à 50, mais vous voyez, on est à 715, par exemple, à Nice, à l'heure actuelle. On est à 245. En Île-de-France, donc on en est loin. Quand on est dans toute la France, en dessous de 50 personnes contaminées par 100 000 habitants, le taux d'incidence par conséquent, alors compte tenu de la multiplication des tests et des dizaines de milliers de personnes qui font le traçage, on peut mettre vraiment en pratique cette stratégie qui doit permettre d'éviter cette fois-ci de manière tout à fait correcte, contrairement à ce que l'on a fait en mai où on n'a pas su tenir le résultat, doit permettre de tenir le résultat, d'autant plus qu'en effet, les vaccins arrivent et que d'une certaine manière, il s'agit d'une attaque combinée contre le virus. Et dans cette stratégie qui demande en effet un effort qui n'est pas tellement pire que ce que l'on vit tous les jours maintenant, sans perspective d'en sortir, il y a une issue, il y a une perspective, il y a véritablement une sortie de crise.
Eh ben, on va en parler juste après une pause, Axel Pkan, parce que la vaccination, en tout cas la campagne telle qu'elle se déroule en France, dans votre tribune, vous en dites encore beaucoup de mal.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec Axel Kahn, qui fait partie des 620 scientifiques signataires d'une tribune en faveur d'une autre stratégie sanitaire. Je disais juste avant la pause, dans cette tribune, on dit plutôt du mal de la campagne de vaccination telle qu'elle se déroule en France.
Alors écoutez, moi j'en dis pas du mal. J'ai signé la stratégie globale du zéro Covid. Mais ça n'est pas moi qui ai écrit cette tribune. Je ne me rappelle même pas ce que cette tribune dit de la vaccination. Moi, j'en ai dit beaucoup de choses au mois de janvier, vous vous rappelez.
Bien sûr.
Je l'ai énormément critiqué. Et mes critiques ont été prises en compte, de toutes en l'occurrence. Et aujourd'hui, ce n'est pas fameux parce qu'il n'y a pas assez de doses de vaccins. Mais ce n'est pas plus mal en France qu'en dans les autres pays européens. Et on est exactement à la même enseigne que tous les autres pays européens. On ferait plutôt mieux que la plus grande partie des autres pays européens. Et donc, non, je n'ai pas de critique particulière aujourd'hui quant à la manière dont se déroule la campagne de vaccination. J'espère, comme tout le monde, qu'on aura plus de doses et qu'on pourra monter en puissance.
Mais il est dit dans cette critique que le confinement n'est pas l'unique réponse à l'épidémie, que ce n'est pas la seule variable d'ajustement on pourrait faire autrement. Et d'ailleurs, alors on n'entend plus tellement le conseil scientifique depuis un mois. Et dans The Lancet, on a vu M. Delfraissy et d'autres membres d'ailleurs du conseil scientifique préconiser l'autoconfinement à la place du confinement, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, oui, j'ai lu cette tribune qui m'a stupéfait. Totalement stupéfait. Parce qu'elle est absurde. Elle est totalement absurde. et je vais vous le démontrer en quelques chiffres. Il y a eu 83 000 morts. Sur ces 83 000 morts, il y en a 42 000 qui viennent des EHPAD, qui sont morts dans les EHPAD ou à l'hôpital après avoir été transférés à l'hôpital. Donc, la moitié de tous les morts viennent des EHPAD, où ils étaient super confinés. Par conséquent, des anciens super confinés sont morts comme des mouches, réellement, malgré le confinement.
Donc, si on dit aux gens « auto-confinez-vous ».
Les autres personnes de plus de 75 ans qui sont mortes, il y en a 32 000 sur 10 millions. Le taux de mortalité en dehors des EHPAD des personnes anciennes, beaucoup plus âgées, n'est pas du tout le même. Et par conséquent, indiquer à des personnes « auto-confinez-vous » alors que l'on sait absolument que ça a échoué partout, que ça a été une hécatombe dans les endroits les plus confinés, c'est totalement absurde. Et puis l'idée qu'il y aurait une espèce de guerre entre les générations, les vieux contre les jeunes, et qu'il faudrait que les vieux montrent l'exemple pour que les jeunes acceptent de se modérer. Mais c'est totalement absurde. Dans la réalité, Frédéric Taddeï, j'ai des jeunes gens étudiants qui sont mes petits-enfants, ils sont très solidaires de leur papy, de leur grand-père. Je sais qu'il y en a qui vont m'engueuler si je dis papy, alors de leur grand-père. Ils m'appellent papy, que voulez-vous que je vous dise. Et moi, je suis très solidaire de mes petits-enfants. Très solidaire. Et présenter les choses comme ça, c'est absurde. Et surtout, l'efficacité sanitaire, stratégique, sociologique de ce qui est proposé, simplement, ça me rend totalement fasciné par ce vers quoi peuvent aller des gens extrêmement intelligents que j'estime, comme par exemple le président du conseil scientifique du Covid et le président de la Haute Autorité de la Santé publique. Ce sont deux amis très proches et qu'ils aient pu signer cela, qu'ils aient pu se laisser aller à signer cela, j'en suis sans voix presque. Vous voyez, d'ailleurs, ma voix s'éteint.
Alors vous, vous proposeriez quoi exactement, Axel Kahn, cette stratégie zéro Covid, cette idée d'éradiquer le virus? Il y a un an, oui, on pouvait le faire encore, enfin on pouvait espérer, mais enfin on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Mais aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est la politique, vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, vers laquelle s'oriente l'Allemagne, peut-être, certainement le Danemark. Peut-être également l'Angleterre, on va voir, mais peut-être, je pense que l'Angleterre voudra également s'orienter vers cette voie-là. Les pays qui ont vacciné le mieux, ils ont confiné en même temps. Regardez Israël, regardez l'Angleterre. La stratégie contre la Covid aujourd'hui est une stratégie concertée. Il faut faire baisser le virus pour diminuer la circulation virale, pour diminuer l'émergence des variants, notamment des variants résistantes au vaccin. Et il faut vacciner à tout va, les deux à la fois. Par conséquent, cette stratégie qui comporte une sortie du tunnel, de réelles perspectives, c'est effectivement pendant un temps limité, peut-être un mois, peut-être six semaines, certainement pas plus, un effort très important de type confinement, pas très tellement pire que ce que l'on vit aujourd'hui, au terme duquel on est dans une situation qui est gérable, où on peut alors vraiment continuer à éradiquer le virus, l'empêcher de revenir avec ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les tests, les masques, les gestes barrières, l'isolement, etc., etc. Et on poursuit la vaccination et ainsi on arrive à l'été, on arrive au début du mois de septembre à un niveau de très basse circulation virale, de protection d'immunité collective suffisante, et on peut être relativement plus optimiste pour respirer un grand coup, vivre et attendre le retour de l'automne prochain.
Et qu'est-ce qui s'y oppose, à votre avis? Quelles sont les forces en présence?
Eh bien, écoutez, il faut que la décision soit prise. Rien ne s'y oppose, puisque c'était la décision du président de la République en octobre-novembre. Il a changé d'avis. Alors,
qu'il a fait ses comptes aussi, que ça coûte très très cher, que ça désespère les gens, que
vous avez raison que ça désespère les gens. Mais je vais vous poser une question. Vous allez me répondre, c'est moi qui fais l'intervieweur. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui désespère le plus les gens? C'est de continuer à vivoter comme on vivote aujourd'hui, sans qu'il y ait de précision de la date de sortie, de la date d'arrêt, ou bien une stratégie qui comporte un effort, mais qui a une issue claire. C'est-à-dire qui comporte réellement une sortie. Quelque chose où je peux dire, Voilà ce que l'on va faire, voilà comment ça va se passer et voilà ce que nous tendons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, écoutez, oh, c'est pas si grave que ça, on continue. Bon, certes, il y a 500 morts par jour, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous ? Je vous dis, certes, le virus, il y en a partout, certes, il y a les variants qui sont en train d'augmenter, certes, il y a même les variants sud-africains et brésiliens résistants aux anticorps qui arrivent, mais tant qu'il n'y a pas un pic qui aggrave encore la situation, on continue comme ça. Et s'il n'y a pas de pic, eh ben, on prolonge. Et combien de temps ?
Et combien de temps ? Je vous réponds, parce que l'intervieweur, normalement, à un moment, cesse de poser la question pour laisser... Je vous dis, ce qui désespère les gens, c'est qu'ils pensaient que la voie de sortie, c'était la vaccination, et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne seront pas vaccinés avant 6 mois, 7 mois, 8 mois, et que c'est ça qui les peut-être les désespère.
8 mois, moins probablement, mais oui, il va falloir... Aujourd'hui, on en est par conséquent à 2 millions, moins de 3 millions de personnes vaccinées, et à 65 millions de Français. De toute façon, il faudrait vacciner 35 millions de personnes. Donc, on est à 10% de ce qu'il faudrait. Donc, il faut encore faire un effort. Est-ce qu'on va continuer à vivoter comme ça pendant ce temps-là ? Moi, je dis, on concentre l'effort et après, on relâche nettement plus, évidemment, sans abandonner la lutte contre la Covid. Eh bien, si vous voulez, on se présente devant les électeurs. J'y vais avec ma stratégie et puis ceux qui sont partisans d'une autre, ils vont avec leur stratégie. On verra bien.
Merci Axel Kahn d'être venu en tout cas nous l'expliquer, votre stratégie. Je rappelle que le 10 mars sortira votre nouveau livre et le bien dans tout ça aux éditions Stock. On se retrouve dans un instant. On va parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce qu'ils auront lieu, les Jeux Olympiques de Tokyo ?
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Les Jeux Olympiques de Tokyo, déjà reportés d'un an, auront-ils lieu l'été prochain ? En dépit de la pandémie, tout le monde se pose la question, d'autant plus que la flamme olympique qui implique 10 000 coureurs doit partir le 25 mars prochain de la préfecture de Fukushima. Alors partira ou partira pas ? 35% de la population japonaise estime dans les sondages que les Jeux devraient être annulés. 45% qu'ils devraient être reportés. Ça fait une très grosse majorité de 80%. 80% des Japonais n'ont pas envie de voir débouler dans leur pays zéro Covid, plus de 10 000 athlètes, 25 000 journalistes, sans compter les touristes venus du monde entier. Mais de là à annuler les Jeux, il y a un monde, beaucoup s'y opposent. On va voir pourquoi avec Jean-Philippe Leclerc. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Équipe. Vous avez déjà couvert 5 Jeux Olympiques à titre personnel. Vous avez, j'imagine, une équipe de journalistes prévue sur place. Qu'avez-vous reçu comme consigne pour l'instant ?
Alors oui, effectivement, a priori, on sera 35 à Tokyo, et pour l'instant on part toujours, mais les consignes sont drastiques, c'est-à-dire que pour nous les Jeux, ça devrait être l'aéroport, les sites olympiques, l'aéroport, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller dans le centre de Tokyo, il n'y aura pas de possibilité de prendre les transports en commun, donc ce ne sera pas la grande fête universelle que ce sera habituellement avec des touristes partout, des touristes sportifs partout, la fête, etc. Là, on nous promet toujours les Jeux, on nous dit toujours qu'ils auront lieu, mais ce serait plutôt des Jeux sous cloche ou dans une bulle.
Ils ne veulent pas que les étrangers, au fond, se mélangent avec la population japonaise.
C'est ce que nous racontait Axel Kahn, c'est-à-dire qu'on a deux stratégies face au virus, une stratégie de zéro cas de Covid et une stratégie où la nôtre, les Européens, où en gros on cohabite avec le virus. Et là, ce que ne veulent pas les Japonais, c'est qu'effectivement, on débarque avec notre stratégie de virus limité et qu'on puisse les infecter. Donc, d'où ces réticences que vous avez décrites.
Mais vous n'avez pas envie de plutôt rester ici, d'écrire vos articles en regardant la télé ?
Alors, c'est le choix déjà de certains confrères. Je sais, par exemple, que les gens de la BBC vont rester en majeure partie à Manchester pour commenter les Jeux de Tokyo. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Ce sera des Jeux étranges, mais ce sera quand même des Jeux à décrire. Et je pense que même l'étrangeté se décrit mieux sur place que de nos bureaux.
À la limite, j'imagine que ce seront des Jeux faits pour la télé et avec des tribunes vides. Parce que s'ils n'ont pas envie que les journalistes se mélangent à la population, ils ont encore moins envie que les touristes se mélangent à la population. Non, mais donc il n'y aura pas de public.
Il peut y avoir du public japonais. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du public japonais dûment testé, peut-être vacciné... Donc, pour l'instant, officiellement, il y aura toujours du public. Mais effectivement,
et la cérémonie d'ouverture, on sait à quoi elle devrait ressembler ?
Pour l'instant, non. Ça, c'est le secret le mieux gardé. Même la veille, normalement, on n'est pas censé savoir qui va allumer la flamme, etc. Après, vous disiez une chose intéressante, des Jeux pour la télé. Mais c'est déjà une tendance sur les derniers Jeux olympiques. De plus en plus, les Jeux sont des Jeux cartes postales avec des paysages magnifiques. Ils sont de plus en plus faits pour la télé. Donc, on peut craindre que ces Jeux de Tokyo, s'ils ont lieu, accentuent encore cette notion de jeu carte postale, de jeu oui, fait pour la télé, plus que pour les gens qui font l'effort de se déplacer.
Le village olympique, il accueille normalement plusieurs milliers de jeunes gens venus du monde entier. C'est un sacré cluster, a priori. C'est quoi la consigne pour les athlètes? On les encourage à rester une fois qu'ils ont disputé leurs épreuves et qu'ils ont été éliminés, ou on les ramène à l'avion?
Non, là, je pense qu'on va les ramener le plus vite possible à l'avion. C'est pareil. Normalement, le village, ça fait partie de l'expérience olympique, comme on dit dans le jargon du CIO. Et là, l'expérience, les organisateurs vont tenter de la limiter au maximum. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des jours d'accoutumance au décalage horaire, aux conditions climatiques qui seront très particulières. Une fois que les athlètes auront gagné leur médaille ou pas, ils seront priés d'aller reprendre l'avion le plus rapidement possible.
Ça va être gay. Est-ce que des pays ont déjà annoncé qu'ils refusaient d'envoyer leurs athlètes, comme l'Australie ou le Canada l'avaient fait l'année dernière? C'est là où ça a basculé à ce moment-là, hein, quand les pays ont commencé à dire « on ne viendra pas ».
Effectivement, il y a une phrase un peu ambiguë de Joe Biden sur le fait d'envoyer ou pas les athlètes américains. On a cru comprendre qu'il se posait des questions. Après, il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit. Là, on est encore un peu tôt. Il faut se souvenir que l'an dernier, les Jeux avaient été reportés fin mars, je crois. Ça avait été annoncé fin mars. Donc là, on est encore dans une période où, effectivement, tout le monde se pose beaucoup de questions. Il y a eu un article récemment dans le Times de Londres qui a semé une belle pagaille en disant que, d'après une source gouvernementale japonaise, les Japonais étaient déjà en train de faire le deuil des Jeux et se préparer pour ce 2032.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont carrément annoncé que le gouvernement avait pris sa décision, mais qu'ils ne voulaient pas le dire.
C'était le Times. C'était une source anonyme au sein du gouvernement japonais qui parlait déjà des Jeux de 2032. Il y a eu un démenti formel du comité d'organisation locale, du CIO, du gouvernement japonais. Donc voilà, on est dans cette sorte d'incertitude qui, en plus de ça, renforcée, puisque le président du comité d'organisation japonais vient d'être viré pour propos sexistes et remplacé par l'ancienne ministre des Jeux, qui est une femme. Et donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir des informations.
Et ça pourra changer encore pendant un certain temps, puisque même si la flamme part le 25 mars, comme c'est prévu, elle peut s'arrêter. C'est ce qui s'était passé l'année dernière.
En fait, l'an dernier, elle est partie d'Athènes, du site sacré d'Olympie. Et puis, en fait, elle est arrivée au Japon et elle devait être transmise à Fukushima. Et effectivement, elle est... Je crois que le report des Jeux avait été annoncé la veille de la cérémonie.
Et c'est de la préfecture de Fukushima qu'elle va repartir, donc le 25 mars prochain. On fait une pause, Jean-Philippe Leclerc, on se retrouve juste après. On continue de parler de ces Jeux et de tous ceux qui ont intérêt à ce qu'ils se produisent.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jean-Philippe Leclerc, le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe. Alors, ces Jeux de Tokyo, il y a aussi tous ceux qui veulent absolument qu'ils aient lieu. Premièrement, les sportifs, j'imagine. Les sportifs veulent y aller.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que quand on est un athlète, un gymnaste ou un nageur, c'est pas la même chose que quand on est footballeur. Quand on est footballeur, si on rate son match de Ligue des Champions... Il y en a un, il y a un autre tour de Ligue des Champions l'année suivante. Là, ces athlètes, ces gymnastes, ces nageurs, le grand objectif de leur carrière, de leur vie, c'est les Jeux Olympiques. Donc s'ils ratent une échéance, ça peut être 8 ans sans les Jeux, c'est terrible pour eux.
Et puis il y a ceux dont c'est les derniers Jeux qui sont programmés. Je pense à Teddy Riner, par exemple.
Alors Teddy Riner, il a plutôt envie de durer jusqu'aux Jeux de Paris 2024.
Ah oui, c'est vrai.
Mais bon, il aura 3 ans de plus, donc il ne sera peut-être plus au même niveau de performance. C'est sûr que Teddy Riner, tout ce qu'il fait depuis les Jeux de Rio, c'est uniquement en pensant aux Jeux suivants, aux Jeux de Tokyo. En plus de ça, chez ses meilleurs ennemis japonais.
Alors il y a le CIO, on imagine, qui milite très très fort pour que les Jeux aient lieu. Après tout, ils vivent du sponsoring et des droits télé. Le sponsoring et les droits télé, ils les récolteront quoi qu'il arrive. Du moment que les Jeux ont lieu, ils gagnent de l'argent.
Oui, mais je pense que ce sera un peu caricatural de résumer uniquement leur position à travers le prisme du business. Je pense que le CIO, il joue un peu sa peau. C'est-à-dire que le mouvement olympique, les Jeux sont attaqués de toutes parts parce que... ils sont jugés trop dispendieux, ils sont jugés trop nationalistes, ils sont jugés pas assez verts, on les accuse de laisser ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire des installations sportives qui servent à rien, etc. Donc ils sont vraiment attaqués. Et en fait, les Jeux, ils ont toujours eu lieu, sauf pendant les deux guerres mondiales. Et là, le fait que si le CIO n'est pas capable d'organiser ces Jeux, ce sera un affront terrible. Ce sera un affront. Et je pense que le CIO aura du mal à s'en remettre.
Mais pourquoi ils ont des comptes à rendre à qui ? Le CIO, c'est une instance internationale. Personne n'est au-dessus. Personne ne peut leur dire quoi que ce soit.
Bah, ils ont longtemps eu un sentiment de toute-puissance. Toutes les villes du monde, beaucoup de villes du monde candidataient, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'on a vu même récemment une ville comme Rome, qui était en position, en tout cas parmi les favoris, qui a renoncé. Il y a de moins en moins de villes qui veulent organiser les Jeux. Donc là, si vous avez une ville comme Tokyo, qui va dépenser a priori plus de 12 milliards pour organiser des Jeux, et qui ne peut pas les organiser, et à qui on donne rendez-vous en 2032, c'est-à-dire avec encore des coûts supplémentaires, c'est un message catastrophique que vous envoyez aux villes candidates qui sont au cœur quand même du business des Jeux.
Surtout que Rio en 2016, ça a plutôt été un échec. Vous y étiez, vous n'avez pas eu l'impression que c'était un échec ?
C'était, sportivement, non. Mais d'un point de vue image, oui, c'était un échec. Parce que les Brésiliens n'avaient plus envie des Jeux. Le problème, c'est qu'entre le moment où vous attribuez des Jeux et le moment où ils ont lieu, il se passe plein de choses. Donc, par exemple, pour le Brésil, ils avaient été attribués à un moment où le Brésil était en pleine expansion économique, avec une image formidable avec Lula. Et puis, on s'est retrouvé au moment des Jeux de Rio, avec un pays qui était complètement à bout économiquement, qui avait déjà organisé la Coupe du Monde de football, qui s'était mal passé sportivement. Donc, ils n'avaient plus du tout envie d'avoir les Jeux.
Alors, parlons du Japon. Le Japon, en tant que pays, on a bien vu, hein, une grande, grande majorité de Japonais veulent que ce soit annulé ou que ce soit reporté. Mais là, parce qu'ils pensent à la pandémie. Mais le Japon lui-même et son gouvernement, des milliards ont déjà été engloutis. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? Ils ont peur de perdre de l'argent ou ils ont peur de perdre du prestige ?
Je pense qu'ils ont plus peur de perdre du prestige que de l'argent. Ce qu'il faut bien comprendre, vous l'avez rappelé, la flamme doit redémarrer de Fukushima. On va célébrer les 10 ans de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, là, en mars. Et la catastrophe a eu lieu en mars 2011 et le Japon a déclaré sa candidature aux Jeux en juillet 2011. Donc il y avait vraiment l'idée de lancer un message au monde, de dire voilà, Fukushima n'a été qu'un accident, au sens premier du terme. Et on est toujours un grand pays, on est toujours une grande puissance, et on va vous le démontrer à travers ces Jeux, grâce à la portée universelle des Jeux Olympiques. Donc ça, effectivement, ce serait remis en cause si les Jeux n'avaient pas lieu.
C'est une vieille histoire, hein, le Japon et les Jeux Olympiques. Ils devaient les avoir en 1940.
Ils n'ont pas eu pour des raisons.
qu'on a comprises. Ils les ont eu en 1964, mais c'était un autre message à ce moment-là. Et j'imagine qu'en 2020, c'est encore un autre message.
Alors, le message de 64, c'était clairement le message de la reconstruction est terminée. L'affront d'avoir été dans le camp des puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale est lavé. Et c'est des Jeux très importants dans la psychologie japonaise. C'est vraiment les Jeux de l'ouverture et de la fierté à nouveau montrée au monde entier. Et les Jeux de 2020, qui s'appellent d'ailleurs toujours les Jeux 2020, hein, officiellement, pas les Jeux 2021, c'était aussi une façon de montrer effectivement au monde que Fukushima s'était terminé et que, en particulier par rapport au grand rival qui est la Chine, non seulement au niveau asiatique, mais au niveau mondial, la Chine qui a organisé les Jeux à Pékin, de façon assez spectaculaire, c'était aussi une façon de montrer la grande puissance asiatique, ça reste le Japon, c'est pas la Chine. Et là, le fait de ne pas pouvoir les organiser, ça serait vraiment une sorte de honte nationale, de se dire, voilà, on est obligé de renoncer, et en plus de ça, on est obligé de renoncer quelque part à cause de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et quelque chose qui nous vient de l'étranger. Donc, je pense qu'en termes d'image, il joue très très gros, effectivement.
C'est marrant, il y a toujours un message, hein, pour chaque ville qui organise les Jeux Olympiques. C'était quoi le message de Barcelone ?
Le message de Barcelone, il était clair, c'était on n'est plus une petite capitale régionale, on est une grande ville internationale. C'était le même message qu'Atlanta en 96, sauf qu'eux, ils sont complètement plantés.
Et le message de Pékin ?
Le message de Pékin, c'était de dire on est le plus grand pays au monde. Il y a peut-être vaguement les États-Unis qui peuvent rivaliser avec nous, mais on est devenu la puissance numéro 2 au monde.
Et le message de Paris en 2024, et quelles conséquences ça aura sur Paris, pour finir cet entretien, si le Japon renonce ou si le Japon organise les Jeux ?
Alors si le Japon renonce, ça sera une pression encore accrue sur les épaules de Paris, puisque ce sera les Jeux normalement du redémarrage olympique. Et le message des Jeux de Paris, pour l'instant, ça a été ne vous inquiétez pas, ça ne va pas coûter trop cher et il n'y aura pas trop d'embouteillage.
Ouais. Merci Jean-Philippe Leclerc. On se retrouve juste après une pause avec Lorraine Kaltenbach qui va nous parler de Marie-Sophie de Wittelsbach, la sœur de Sissi.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Lorraine Kaltenbach.
Bonjour.
Vous publiez Le secret de la reine soldat aux éditions du Rocher. C'est l'histoire de Marie-Sophie, la reine de Naples et des deux Siciles, sœur de Sissi, sauf qu'elle est beaucoup plus passionnante que Sissi. Je me suis toujours demandé ce qu'on trouvait d'intéressant chez Sissi.
Sissi, je pense qu'elle était essentiellement et très belle et la femme d'un empereur d'un des plus vastes empires européens.
Alors que Marie-Sophie ?
Alors que Marie-Sophie serait la version solaire de Sissi. Ce serait une Sissi, mais qui aurait aimé la vie et qui aurait aimé le plaisir.
Alors la caractéristique de Marie-Sophie, c'est qu'elle épouse alors un souverain moins important que François-Joseph, mais c'est quand même François II de Bourbon qui se retrouve sur le trône de Naples. À l'époque, ça représente beaucoup. Hein. Naples et de Sicile, c'est la moitié de l'Italie.
C'est la moitié de la population italienne. C'est la moitié, c'est le sud de la péninsule, la moitié de la botte qu'on coupe en deux, plus la Sicile. Et c'est évidemment un énorme morceau à une époque où tout le monde rêve de faire l'unité de l'Italie. Il faut pouvoir avaler ce gros morceau.
Et donc, elle va se retrouver, Marie-Sophie, à 19 ans, face à la Révolution italienne, face aux chemises rouges de Garibaldi. Et à ce moment-là, elle et son mari sont retranchés dans la forteresse maritime de Gaète. Le siège va durer plusieurs mois. Et à 19 ans, elle devient une héroïne.
Oui, parce qu'elle va être absolument héroïque, donc elle fascine l'Europe entière. Elle va devenir un très gros caillou dans la chaussure des unitaires, parce que du côté des unitaires, vous avez vraiment des politiques flamboyants. Vous avez Cavour, qui est un homme d'engagement, un type d'une intelligence folle. Vous avez Mazzini, qui est le grand pur. Et vous avez le Cincinnatus en pancho, Garibaldi, qui est extraordinaire et qui a du courage. Sauf que là, en face d'eux, ils n'ont plus simplement Pie IX, qui est un pape qui a été assez libéral, mais qui est devenu un peu réactionnaire. Ils ont désormais une héroïne. Elle a 20 ans. Elle a subi un siège de 200 jours. Elle est héroïque. Et en plus, ça ne se fait pas de bombarder une femme. Et ça se fait encore moins de bombarder une femme qui a 30 ans de moins que vous. Elle est face à des hommes qui ont 50 ans. Elle est toute jeune. Elle a un courage inouï.
Et c'est Jeanne d'Arc, au fond. Elle a le même âge, à 19 ans, c'est l'âge auquel Jeanne d'Arc est montée sur le bûcher. Hein. Oui. Et Danuzio va la baptiser l'aigle de Bavière. Oui. Proust, puisqu'elle est dans la recherche, va l'appeler la reine soldat. C'est le titre que vous avez repris. Ouais. Quand elle sort des ruines, parce qu'il n'y a plus que des ruines, hein, ouais. Quand elle en sort avec son mari, il y a une haie de soldats napolitains qui lui rend hommage. Elle s'embarque pour Rome. C'est une star hein, qui arrive
elle
à Rome.
Elle s'embarque pour Rome, et à ce moment-là, il y a un détail très important. C'est qu'elle est sur son bateau, un bateau français. Napoléon III a envoyé quelqu'un pour venir les chercher. Et elle regarde les Piémontais qui viennent de la défaire. Elle les regarde faire tomber, baisser le drapeau fleur d'Élysée des Bourbons et monter le drapeau de Savoie tricolore. Et là, elle se jure, elle se dit... Ils n'iront pas au paradis. Un jour, je me vengerai.
Parce que parmi ses ennemis, il y a aussi Victor Emmanuel, le roi du Piémont, qui va devenir le premier roi de l'Italie unifiée.
Tout à fait, parce que Victor Emmanuel, c'est celui qui a le plus d'indépendance, c'est celui qui s'allie un moment avec Napoléon III pour faire Solferino. Tous ceux qui rêvent un peu de l'unité de l'Italie se doutent bien que ça se passera autour de lui.
Alors, elle est héroïque, elle est formidable, et il va lui arriver des choses fantastiques à Marie-Sophie. Et la première, alors c'est pas fantastique pour elle, mais c'est la première sextape. Enfin, l'équivalent de la sextape à l'époque, c'est-à-dire les photos pornographiques. On va voir tout à coup, dans toute l'Europe, des photos pornographiques de Marie-Sophie avec un zouave pontifical, puisqu'à ce moment-là, elle est réfugiée dans les états pontificaux à Rome.
Elle est réfugiée à Rome, et c'est ce que je viens de vous expliquer. C'était un caillou dans la chaussure des unitaires, et donc il faut absolument... tuer le symbole. Comment faire mieux avec une femme que de la traiter de roulure et de dépravée? Et donc, ses ennemis vont convoquer une prostituée, faire des photos où on va coller la tête de Marie-Sophie, qui était sans arrêt, qui adorait se faire photographier, contrairement à sa sœur Sissi, qu'on va coller sur un corps de femme, de prostituée, dans des poses lascives et tout à fait érotiques. Et tout ça va être distribué allègrement en Europe, ce qui va être un scandale monumental. Et c'est pour ruiner sa réputation, évidemment.
En même temps, elle est vraiment amoureuse d'un zouave pontifical.
Et alors voilà, parce qu'il se passe... Au moment où ces photos sortent, depuis plusieurs mois, il y a un jeune Parisien de 25 ans, très séduisant, qui est parti à Rome dans les oeuvres pontificaux pour venir au secours du pape. Il a fait un premier engagement de 6 mois. Au bout de 6 mois, il a trouvé ça très bien. Il a rempilé. Et puis, soudainement, voilà que ce jeune Parisien quitte les Zouaves et décide de s'en aller. Que s'est-il passé? Et il quitte les Zouaves juste au moment de la sortie des photos pornographiques. À bon entendeur, il est vraisemblablement un peu gêné parce que ce jeune homme, Emmanuel de Lavaïs, est l'amant de la reine.
Et en plus, c'est un de vos ancêtres.
C'est un cousin et surtout, il va avoir l'enfant du péché, un enfant conçu dans le plus beau, la plus belle maison romaine au Palais Farnèse. Et cette petite fille va pousser avec mon arrière-grand-mère.
Alors cette petite fille, c'est l'enfant caché, on l'appelle Daisy. Hein, c'est absolument révolutionnaire à l'époque hein, pour une reine, même une reine déchue, d'avoir un enfant naturel. C'est courant chez les hommes, c'est très très rare chez les femmes.
Alors déjà, il y a une petite complication, c'est que les femmes accessoirement doivent les porter pendant 9 mois, c'est un peu plus difficile à planquer. Et que par ailleurs, elle est d'autant plus révolutionnaire. C'est que, ensuite, je saute un peu les étapes, mais son mari, son cocu, mari, le malheureux, sera le plus gentil des hommes avec cette Daisy de Lavaïs.
Alors, elle va se venger, vous l'avez laissé entendre, Lorraine Kaltenbach, Marie-Sophie, elle va se venger 40 ans après Gaët. Elle va se venger de la famille du Piémont, de la famille qui a régné sur l'Italie, puisqu'en 1900, le roi Umberto Ier, le fils de Victor Emmanuel, est assassiné par des anarchistes. Et ce que l'on comprend dans votre livre, mais vous n'êtes pas la seule à l'avoir dit, on l'a soupçonné à l'époque déjà, c'est que derrière tout ça, derrière ce complot, celle qui aurait inspiré, financé et facilité l'attentat, c'est Marie-Sophie.
C'est Marie-Sophie qui reçoit dans son joli petit pavillon de Neuilly l'équivalent, pour faire vite et à grand trait, du Ben Laden de l'époque, qui s'appelle Malatesta, qui est vraiment le grand patron un peu de l'anarchisme italien, qui a fait le coup de force, qui sort de prison, etc. Et elle va les financer, les aider, alors même que 2 ans auparavant, ce sont les anarchistes qui ont tué sa sœur Sissi en Suisse. Voilà. Et elle va évidemment les soutenir, non seulement très vraisemblablement cet attentat, mais d'autres, elle va à un moment déposer des fonds pour acheter des fusils mitrailleurs. Voilà, c'est...
Alors l'argent, elle le tient, vous racontez qu'elle a vendu son écurie de course. Alors, moi, c'est quand même assez... on peut en rire aujourd'hui.
Oui, on peut
le temps
en rire. Alors moi, c'est ma version parce que j'ai repéré, on voit les dates des moments où elle finance soit les mitraillettes, soit cet attentat. Or, en 1900, elle avait des chevaux de course qui concouraient au prix de Diane. Inutile de vous dire, ce n'était pas des vieux canassons, ils avaient une certaine valeur. Elle va tout vendre. Et elle dira, écoutez, qu'on a perdu sa couronne, à quoi bon, à quoi bon en plus perdre aux courses? Moi, je liquide mon écurie, mais moi, je pense que madame cherchait de l'argent frais pour financer ses voilà.
40 ans après, 40 ans après avoir perdu son trône, ouais. Il fallait quand même avoir de la patience et de la détermination. Et puis surtout, elle est fricotée avec ceux qui, à l'époque, effectivement, étaient des assassins, des chefs d'État et des souverains.
Oui, alors il y a quelqu'un, un de ses proches, qui l'a décrite au début du XXe siècle, qui disait « c'est une mosaïque morale, c'est un mélange de Machiavel, Catherine II, Mazarin, matinée du courage de Jeanne d'Arc avec la charité de Saint-Vincent de Paul. Bon, c'était un sacré bout de femme.
Ouais. C'est effectivement un sacré personnage. C'est quand même beaucoup plus intéressant que Sissi, non ?
C'est plus intéressant que Sissi. Pardon, chez les Wittelsbach, j'ai dit, pour moi, il y a deux personnages intéressants. Il y a Louis II, qui aujourd'hui fait la fortune de la Bavière. Et puis à ma Marie-Sophie.
Un sacré destin en tout cas que celui de Marie-Sophie que vous racontez donc en détail dans Le secret de la reine soldat aux éditions du Rocher. Merci Lorraine Kaltenbach.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain dans quelques minutes. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Aurélie Herbemont, qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Aurélie.
Bonjour Frédéric.
Qui est votre invité ?
Stanislas Guérini, député de Paris et délégué général de La République En Marche. Alors on va parler du tollé provoqué par la ministre Frédérique Vidal sur l'islamo-gauchisme dans les facs, des régionales qui s'annoncent compliquées pour la majorité de la présidentielle. Et puis bien sûr du Covid qui pèse toujours sur notre quotidien.
Merci, bonne émission Aurélie.
Merci.